Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin. Nous voici les titres. La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la plainte d'une ancienne procureure communiste. Après Paris, les frères Forman montent leur obludarium à Plana, en Bohême. Et puis décès du violoniste Józef Suk, il était l'arrière-petit-fils du compositeur Antonín Dvořák. La Cour européenne des droits de l'homme a donc rejeté la plainte déposée par l'ancienne procureure communiste Ludmila Brožová-Polednová, qui a été condamnée à 6 ans de prison par la justice tchèque pour sa participation active au procès qui a mené à la condamnation à mort de Milada Horáková dans les années 50. Brožová-Polednová avait saisi le juge européen en indiquant qu'elle n'avait fait qu'obéir aux ordres. Âgée de 89 ans, elle a été graciée en décembre dernier par le président de la République en raison de son état de santé. Musique classique, le violoniste tchèque Josef Suk est décédé jeudi des suites d'une longue maladie à l'âge de 81 ans. Né en 1929 à Prague, il était le petit-fils du compositeur Josef Suk et l'arrière-petit-fils d'Antonín Dvořák. Il faisait partie des meilleurs virtuoses de son pays. Il a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière, notamment en France, où on lui a décerné le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros à 6 reprises et remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. C'était en 2002. C'est au Top Hotel Praha que se disputera vendredi soir la finale du concours Miss Deaf World and Europe. 48 jeunes filles sourdes participent à la finale cette année. L'année dernière, la finale avait été organisée en Géorgie et c'est une Russe qui l'avait emportée devant une Chinoise et une Ghanéenne. La République tchèque est représentée cette année par Marie Frankova. Et puis un mot de tennis pour vous dire que la joueuse Petra Kvitova, victorieuse à Wimbledon, vous le savez, a été reçue par le président Klaus ce jeudi au château de Prague. Elle est la première joueuse tchèque à remporter le tournoi de Wimbledon depuis Jana Novotna en 1998. Le président Klaus a déclaré qu'il avait suivi le match et souhaitait féliciter personnellement la championne. Très sollicitée par les médias, Petra Kvitova était également ce jeudi à Karlovy Vary, où elle a été accueillie par le président du festival de cinéma qui se déroule en ce moment dans la station thermale de Bohème. Un mot encore de musique pour vous dire que dans le cadre du festival Prague Proms, le trompettiste classique français Guy Touvron sera vendredi soir en concert au couvent Sainte-Agnès de Prague. Guy Touvron joue régulièrement en Asie aux États-Unis et a déjà enregistré plus de 80 disques. Le festival Prague Proms se poursuit jusqu'au 23 juillet avec notamment 2 concerts du célèbre compositeur de musique de film italien Ennio Morricone, qui dirigera l'Orchestre Symphonique National Tchèque et l'Orchestre Philharmonique de Brno. Un mot sur la météo pour terminer, avec toujours une météo estivale en cette fin de semaine en République tchèque, des températures jusqu'à 27 degrés à Prague et un ciel largement dégagé. Ce sont les prévisions pour vendredi 8 juillet. Voilà pour les infos. Plus d'infos, c'est sur le site www.radio.cz. Et dans une poignée de secondes, vous retrouvez Anna Kubishta pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Alexis Rosenzweig pour ce bulletin d'information. Le musée national, bâtiment célèbre qui surplombe la non moins célèbre place Venceslas, va fermer ses portes pour 4 ans de travaux de fond et des travaux plus que nécessaires. Comme vous le verrez ce jeudi, il était encore possible de le visiter une dernière fois dans le cadre d'une journée porte ouverte unique. Le Festival international du film de Karlovy Vary bat encore son plein avec un critique de cinéma tchèque. Nous avons parlé de la section consacrée aux films d'Europe centrale et de l'Est, mais aussi de l'avenir de la présence des films français au festival. Et il semblerait que leur nombre ait tendance à décroître. Bonne écoute de ce programme. Les visiteurs devront désormais attendre 4 ans pour pouvoir à nouveau découvrir la plupart des collections de l'un des plus célèbres musées pragois, le Musée National, ou Národní muzeum en tchèque. Celui-ci sera en effet fermé après une dernière journée porte ouverte ce jeudi et s'apprête à connaître une longue période de restauration. Les travaux permettront notamment d'agrandir l'espace d'exposition et devraient être achevés en juin 2015. Pierre Maignan.
Fondé en 1818, le Musée National a longtemps été le reflet du renouveau patriotique et culturel tchèque du XIXe siècle. Surplombant la fameuse place Venceslas, le musée a été un témoin privilégié de l'histoire des pays tchèques. Il est ainsi endommagé par une bombe durant la Seconde Guerre mondiale, puis quelques années plus tard par la construction du métro pragois. Il est également la cible de mitrailleuses soviétiques en 1968, lorsque les troupes du pacte de Varsovie s'emparent du bâtiment de la radio tchécoslovaque, lequel est situé non loin de là. Le bâtiment principal du musée national, construit de 1885 à 1891, sous la direction de l'architecte Joseph Schulz, a donc particulièrement souffert des tourments du XXe siècle. Les médias étaient d'ailleurs invités à constater le relatif délabrement du bâtiment lors d'une action symboliquement appelée « À vos risques et périls » lors de son avant-dernière journée d'ouverture. Le directeur du musée, Mikhail Lukesh, avait d'ailleurs du mal à évaluer le degré de détérioration du monument.
Tak to se velice těžko říká, protože ta budova, jak jste řekla, má oslavila 120. narozeniny a ta naše stará dáma už...
C'est vraiment très difficile à dire, car ce bâtiment célèbre son 120e anniversaire et se dégrade complètement, du toit jusqu'aux caves. Les technologies utilisées pour les expositions sont obsolètes et ainsi de suite. C'est pourquoi l'idée d'une restauration intégrale était en préparation depuis déjà longtemps.
Les travaux, dont le coût est évalué à 4,5 milliards de couronnes, environ 186 millions d'euros, devraient ainsi permettre d'agrandir et de moderniser les salles d'exposition. L'un des objectifs est également de construire un tunnel reliant le bâtiment principal avec celui de l'ancien Parlement fédéral, désormais partie intégrante du musée, et ce depuis l'automne 2009. Pour une grande majorité du public présent ce jeudi, la nécessité des travaux ne faisait souvent aucun doute. Pour autant, certains doutent de la pertinence de certaines réparations et de la période choisie pour les travaux.
Je pense que ces travaux sont nécessaires. Pour autant, faire de telles réparations en temps de crise, il me semble que certaines d'entre elles ne sont pas primordiales et ne devraient pas être entreprises. Le problème, c'est que les contrats de ces travaux de rénovation se préparent longtemps à l'avance. Et malheureusement, ce genre de travaux s'inscrit dans un temps long qui ne prend pas en compte les situations économiques à un moment donné.
Pour la dernière journée d'ouverture du musée national, celui-ci était entièrement gratuit de 10h à 20h. Une foule importante n'a pas hésité à faire la queue et à attendre parfois plusieurs dizaines de minutes pour découvrir ou redécouvrir un lieu qu'ils ne pourront plus fréquenter pendant plusieurs années. Pour Mikhail Lukesh, cette journée était donc à placer sous le signe de l'émotion. En début de matinée, il revenait sur les dernières animations proposées au public afin de tirer le rideau sur une dernière note positive.
Le musée peut aujourd'hui être visité pour la dernière fois. C'est donc un jour assez nostalgique puisque, évidemment, vous ne le verrez plus jamais comme il fut durant ces dernières décennies. Nous n'avons pas vraiment de programme détaillé vu le nombre de gens qui viennent visiter le musée ces jours-ci. Le public peut cependant s'attendre à certaines choses. Des DJ mixeront notamment la musique d'Antonin Dvořák. Dans le Panthéon, des films sur des expositions seront projetés et nous présenterons nos différents musées et leurs objectifs à Prague et dans ses environs.
En effet, le musée national ne se limite pas à son bâtiment principal et durant la période de reconstruction, il sera toujours possible de découvrir les autres expositions qu'il propose. Le public était par ailleurs assez surpris par la musique offerte par les deux DJ qui ne se limitaient pas au répertoire du célèbre compositeur tchèque Antonín Dvořák, mais qui incluait des morceaux plus électro assez atypiques dans cet endroit pour le moins académique.
Je vous le disais en titre, le 46e festival du film de Carlo Vivari bat son plein, traditionnellement apprécié des visiteurs pour son côté bon enfant en raison d'un public de jeunes cinéphiles qui ne rechignent pas à camper pour voir toutes les nouveautés du 7e art. Le festival continue d'un autre côté à être observé et décortiqué par les spécialistes du genre. Michal Prochaska est critique de cinéma, il tient un blog pendant toute la durée de l'événement pour le site actualnier.cz et il nous parle de Carlo Vivari.
Les cinéphiles, les professionnels, les journalistes, les critiques du cinéma, je veux dire de la jeune génération, ont beaucoup reproché à ce festival la programmation parfois considérée un peu éclectique. Ça veut dire que jusqu'à présent, le festival a projeté pas mal de films déjà primés aux autres festivals, comme c'était le cas de la section Les Yeux Ouvertes, qui ont pris justement les films, par exemple, de Cannes. Dans cette année-là, je vois la tendance du festival d'essayer de montrer les nouveaux films, les nouveaux talents de notre région, de l'Europe centrale. C'est quelque chose qui est marquant quand on regarde le programme de la compétition aussi, de la section East of West.
Cette section East of the West, je suppose qu'elle est importante pour que ces films, qui sont par exemple peu connus, disons, dans les pays de l'Ouest, soient promus d'une certaine façon. Est-ce que justement il y a des échos après le festival de Carlo Vivari du fait que certaines personnes ont vu ces films et ces films ont pu être projetés par exemple, achetés pour être projetés en France, en Italie, en Grande-Bretagne par exemple?
En fait, il faut dire qu'on a beaucoup estimé du festival de Carlo Vivari de faire par exemple ce travail. Mais je crois, c'est mon sentiment, que le festival a un petit peu raté cette chance, ça fait déjà 10 ans. Et maintenant, c'est difficile de rattraper le temps perdu, parce que du coup, il y a beaucoup de festivals autour de notre pays, comme par exemple celui de Kotbou, celui de Sarajevo, qui font un petit peu le même travail. Je crois que le festival de Carlo Vivari sert aussi, par exemple, au cinéma français, au cinéma allemand, pour tester le public de l'Est. Ça veut dire qu'ils projettent leurs films ici et ils essayent de trouver comment le public de l'Europe de l'Est réagit à leurs films, par exemple. Je crois qu'il y a quand même un chemin à parcourir pour arriver jusqu'à là, à établir une plateforme de promotion de films de l'Europe de l'Est.
Un dernier mot juste par contre sur le cinéma français. Alors Eva Zaurarova, qui était la directrice artistique du festival de Carlo Vivari et maintenant n'est plus que conseillère artistique pour la programmation. En effet, c'est Karel Hoch maintenant qui s'occupe de la programmation de facto. Est-ce que ça veut dire que peut-être il y aura moins de films français francophones au festival de Carlo Vivari, puisque c'est elle qui faisait quand même une bonne partie de ce travail de recherche, d'aller à Cannes chercher les films?
Je ne peux pas répondre à cette question comme ça, parce que en fait, je ne fais pas partie de la comité de programmation et je ne travaille pas pour le festival. Mais c'est vrai qu'après beaucoup d'années, on voit qu'il y a très peu de films français dans le programme. Ça signifie quelque chose, effectivement. Et peut-être il y a même une liaison avec le départ de Eva Zaurarova de sa fonction. Peut-être aussi ça reflète une sorte d'orientation de la République tchèque plutôt vers le monde anglophone, américain et tout ça. J'en regrette beaucoup parce que je crois qu'il faut tenir une sorte de richesse du programme, un équilibre entre les cultures différentes. Mais aussi la présence des films de plusieurs pays dans le programme de festival. Il s'agit aussi d'une sorte de compétition. Ça veut dire, par exemple, les programmes spéciaux sont soutenus par les organisations nationales de soutien du cinéma. Il y a des liaisons, il y a des focus différents. Et c'est normal que, même si on peut en regretter, mais c'est normal que, par exemple, il y a beaucoup de cinémas européens, comme le cinéma bulgare, comme le cinéma portugais, qui est souvent très peu représenté dans les festivals internationaux. C'est peut-être assez marquant de voir ça dans le cas du cinéma français après les années fructueuses. Mais il faut dire que la compétition de culture dans le cadre de l'Union européenne n'était jamais vraiment de justice, quoi. Comme ça dépend comment chaque pays peut ou veut soutenir leurs films, leurs productions.
C'est la fin des faits et événements sur Radio Prague. Tout de suite, on passe à la deuxième partie du programme. Dans les Tchèques célèbres et moins célèbres aujourd'hui, Magdalena Hrozinková vous propose de découvrir le destin de Deta Horochovská. Cette jeune fille tétraplégique apprend aux autres personnes handicapées à manipuler l'ordinateur à la voix.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
C'est un des milliers de destins sur lesquels on tourne des reportages, on écrit des livres et qui ne cesse de nous surprendre, nous qui avons la chance de ne pas connaître ce qu'est en réalité un handicap physique, congénital ou acquis. Il existe des personnes handicapées qui conduisent une voiture, font toutes sortes de sports, peignent et écrivent de la bouche ou du pied. Dita Horochowska, 23 ans, qui souffre depuis sa naissance de paralysie des quatre membres, est la première tchèque à avoir appris à travailler à l'ordinateur à l'aide de sa voix. Nous en avons parlé sur Radio Prague. En 2010, l'association tchèque Polovina Nebe, la moitié du ciel, a lancé à Prague des cours de travail à l'ordinateur destinés aux personnes handicapées dont les fonctions motrices sont très limitées. Grâce au logiciel de reconnaissance vocale My Voice, My Dictate et Newton Dictate, développé par l'équipe du professeur Jan Nouza à l'université technique de Liberec, ils peuvent écrire, utiliser des emails, internet et Skype, et ceci uniquement par la voix. Dès le début de ce projet, Dita, accompagnée de son assistante, fait deux fois par semaine le déplacement dans la capitale pour animer ses cours. Dita habite avec ses parents et son frère à Náchod, à quelques 150 km à l'est de Prague. Grâce au logiciel de reconnaissance vocale, elle a pu passer le baccalauréat économique.
La semaine où j'ai passé mon bac a changé ma vie. Je me souviens exactement que le mercredi 1er juin, j'ai passé les examens. J'ai alors écrit à M. Nouza de l'université de Liberec pour le remercier. Le même jour, le professeur Nouza a été contacté par Mme Raskova, l'initiatrice de ce projet. Elle lui a demandé s'il ne connaissait pas une personne handicapée qui utiliserait les logiciels développés par l'université. Il a tout de suite pensé à moi. Comme par hasard, deux jours plus tard, Mme Raskova et son collègue sont venus dans ma ville pour installer le logiciel My Dictate sur les ordinateurs du tribunal. À cette occasion, nous nous sommes rencontrés et ils m'ont proposé le poste d'animatrice de ces cours pour handicapés.
Pour Dita, la décision a été évidente.
Je n'ai pas hésité à accepter ce travail. C'était une chance énorme pour moi. À l'époque, j'avais pensé me reposer pendant un an avant de tenter une école supérieure. La préparation du baccalauréat m'a pris beaucoup de force. Mais quand on m'a fait cette proposition, à laquelle je ne m'attendais absolument pas, je me suis dit que finalement, j'étais libre. J'ai accepté et c'est comme ça que tout a commencé.
Dita Horochowska avoue avoir appris toute seule à maîtriser l'ordinateur en moins d'une semaine, alors que les cours gratuits qu'elle anime à Prague durent 3 mois. Pendant 2 mois, les participants se rencontrent régulièrement et travaillent avec Dita et les autres membres de l'équipe en groupe. Les 3 dernières semaines de la formation sont réservées à l'apprentissage à domicile. Pour Dita, comme pour ses élèves, c'est du nouveau.
Depuis toujours, je suis plutôt entourée de personnes sans handicap. Cela me convient mieux. Avec eux, je ne me sens pas malade. Aussi, j'ai fréquenté des écoles ordinaires. Évidemment, les enfants m'enviaient certaines choses, le fait que j'avais une assistante qui écrivait à ma place, par exemple. Mais je ne me sentais pas exclue. Ma famille, mes amis ne sont pas handicapés non plus. En effet, je me suis toujours sentie plus à l'aise en compagnie de gens sans handicap. Maintenant, lorsque je travaille avec les handicapés, c'est une nouvelle expérience pour moi et c'est bien. J'ai désormais des copains aussi parmi les personnes handicapées. Ce qui facilite notre communication, c'est que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous partageons les mêmes expériences et nous le savons sans en parler, sans devoir expliquer.
Mais ce travail a apporté encore une autre dimension à la vie de Dita.
Je ressens une grande satisfaction et un sentiment d'autonomie que je ne connaissais pas auparavant. Désormais, je voyage toute seule, sans mes parents, je rencontre des gens et il n'y a que moi qui le sais. Je rentre chez moi et je sais qu'ils ne seront que ce que je leur raconterai. Pour la première fois de ma vie, je peux avoir des secrets. C'est peut-être un peu égoïste, mais ce sentiment d'autonomie est extrêmement important pour moi.
Interrogée sur ses projets et rêves, Dita est tout aussi sincère. Elle voudrait continuer à animer les cours de travail à l'ordinateur et serait tentée par des études de psychologie. Ses rêves? Être en bonne santé, mais c'est irréel, s'amuse-t-elle.
souffrant d'une tumeur bénigne située dans la colonne vertébrale et se réjouit du fait que son état de santé ne se détériore pas depuis plusieurs années. Ensuite, elle évoque quand même un souhait.
Non, spíš najít si partnera, poznat lásku, nebo co tak řeknu.
Je voudrais trouver un compagnon, connaître l'amour réciproque. C'est un autre avantage de ce travail. J'ai rencontré ici dans les cours des gens qui ont ou dont les amis ont trouvé des partenaires et fondé des familles malgré leur handicap. Heureusement, je ne suis pas dépressive. Au contraire, on me dit souvent que je donne de l'énergie aux autres. Je ne pleure pas dans mon petit coin parce que je n'ai pas de copains. Seulement ici, grâce à ce travail, j'ai trouvé une motivation. Je vois qu'il pourrait un jour se passer quelque chose.
Bien que condamnée au fauteuil roulant et ne pouvant bouger que sa tête, Dita a le don de faire étonnamment vite oublier son lourd handicap. Ces deux jeunes femmes souriantes, rire pétillant, au maquillage et à la coiffure soignée, et par ailleurs une passionnée de Formule 1.
Mon frère et ses copains, quand ils avaient autour de 12 ans, ils venaient chez nous regarder les courses de Formule 1. Je regardais avec eux et j'adorais ça. Quand ils ont grandi, ils ont laissé tomber la Formule 1, à part moi et mon frère. Ils m'emmènent souvent voir les courses à l'étranger. Là, par exemple, nous allons aller en Hongrie. Ces 11 dernières années, je n'ai manqué aucune course à la télé. Mais tous les sports m'intéressent. Le foot, maintenant j'ai suivi Wimbledon, les championnats de hockey sur glace ne m'échappent pas non plus. Quant à la Formule 1, je supporte l'équipe McLaren, alors j'ai leurs affiches partout dans ma chambre. On dirait vraiment pas que c'est une chambre de fille.
À savoir que Dita Horochowska a son propre blog que vous trouverez à l'adresse http://horochowska.blog.idnes.cz. Elle est également une fan du groupe slovaque No Name, dont voici un des titres.
Čím to je, že rieka do mora sa vlieva a ten, čo nevie spievať, spieva. Čím to je, čím to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri. Možno zlodej a možno mních spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague, des sujets que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy.